au Canada, mon pays, mes amours. Et nous avons maintenant Gisèle Sanson, gardienne des archives de l'Association historique francophone de Victoria. Bonjour Gisèle.
Bonjour Marina, merci pour cette musique. Musique ancienne, oui, de Georges-Étienne Cartier, qui était un homme politique canadien et qui a joué quand même un rôle important dans l'établissement de la Confédération canadienne en 1867. Ça, c'est important parce que la Colombie a fait partie finalement de cette confédération-là en 1871. Alors, merci pour l'ouverture de cette musique.
Merci pour ce choix musical. Gisèle, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui aura lieu le 6 septembre. Je pense que beaucoup de membres de la communauté ont reçu l'invitation, mais il est bon de développer quel est cet événement.
Oui, alors, Léon Morel, c'est un personnage historique qui représente les Canadiens français, d'après moi, là. Tous ceux qui sont venus par centaines dans l'Ouest canadien et qui sont décédés aussi pour plusieurs en Colombie-Britannique, dans l'État de Washington et dans l'État d'Oregon.
Décédés pendant le voyage aussi, parce qu'à l'époque...
C'était ardu, hein?
Oui.
C'était très pénible de venir ouvrir des chemins. Oui, c'était des chemins de terre, des chemins de rivières. Et puis c'est tout ça... les compagnies à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas juste la compagnie de la baie du Thon, mais il y avait des compagnies de traite de fourrure. Et on est au 18e siècle à ce moment-là. Puis ils étaient nombreux à travailler, ils étaient choisis. On leur promettait des conditions de travail, mais ils ne recevaient pas toujours le dollar et demi ou l'argent qui était prévu pour certaines journées. Alors, ça n'a pas été facile, et surtout l'hiver, ils vivaient dans des sheds. Hein. En tout cas, c'est une histoire assez pénible, mais ils ont quand même persisté. Et la francophonie était ici au-delà de 200 ans à cause de cette présence des Canadiens français ici. Alors, c'est important... je pourrais dire que ça fait une vingtaine d'années là, qu'on l'a dans notre tête de penser à placer une stèle dans ce vieux cimetière. L'association historique était en contact avec la société des vieux cimetières d'ici, de Victoria, et on savait qu'il y avait un lot dans lequel avait été enterré Léon Morel. On nous avait avertis, puis on nous a demandé souvent, êtes-vous intéressé à placer quelque chose sur ce lot-là? Et oui, oui, ça faisait longtemps qu'on était prêts. Dès que j'ai remplacé Laurette Laplante à Gnou, elle m'avait enseigné l'histoire. Elle m'avait bien dit que sur la feuille des choses à faire, il y avait cet événement-là, qu'il fallait arriver à bout de le réussir. Alors donc, moi, j'ai beaucoup de joie. Là. Je suis sûre que mon équipe aussi en a.
Oui, vous êtes parvenue donc à vos fins. Mais dites-moi, c'est quand même un long processus administratif. Comment ça se passe pour pouvoir ériger une stèle comme ça dans un cimetière?
Bon, ben évidemment. Heureusement que The Old Cemetery Society était là. Et j'étais, moi, en contact avec un de leurs membres très actif qui a déjà été président aussi, qui est sur le conseil là-bas. C'est Wilf Bruges, et puis lui, il m'a beaucoup guidée, et j'ai déposé un permis, une demande de permis à la ville de Victoria, qui gère tous ces cimetières, et puis on a rempli ce qu'il fallait comme demande, et on a persisté, et j'ai eu beaucoup dans ma tête les souvenirs qu'il fallait la réussir, parce que moi, j'achève mon terme, là, je vais me retirer. Alors, je me disais, ça serait idéal qu'on puisse réussir à rassembler des gens. Et la COVID-19 est arrivée dans la ligne de compte, là. C'est pour ça qu'on est limité dans les inscriptions. Mais la ville, ça a pris du temps. On l'avait demandé en septembre et nous avons obtenu le permis en février. Alors, la COVID est arrivée pas longtemps après. On était dans cette ambiance-là. Hein. Alors, on est obligé de limiter le groupe, mais par la suite, le monument va toujours rester là. Il est dans un style ancien. Alors, Wilf Bruges, qui est l'artisan, le doer, comme il dit, il a bâti cette, petite plaque, c'est pas une plaque, mais c'est un beau monument vertical. C'est pas couché par terre, c'est vertical. Et avec une douzaine aussi de membres de la francophonie, on est parvenu à fixer un écrit en partie anglais et en partie française.
Ah oui.
Pour que les gens puissent lire un peu le contenu de cette histoire-là.
Oui, à titre informatif, alors.
Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis très contente de ce que j'ai vu, là, qui est produit. Et j'ai fait circuler des fois des images pour montrer à quelle étape on était rendu pour cette stèle là, qu'on voulait tellement. Mais tu sais, quand on arrive ici, en Colombie-Britannique, là, il faut toujours se rappeler, je sais pas si tu étais bonne en géographie, les cours de géographie qu'on avait à l'école. Est-ce que tu as eu ça, toi, des cours de géographie?
Oui, beaucoup, oui, oui.
Oui, puis tu aimais ça ou...
Ah oui, bien sûr, c'est intéressant, c'est
bon,
notre histoire.
Alors, quand on arrive ici, il faut se souvenir de nos cours de géographie. Et les cours de géographie, ça me racontait depuis tout de suite que les Canadiens français du 18e et du 19e siècle, il avait été nombreux à chercher ces routes-là là, pour arriver à l'extrême ouest là, du Pacifique, voir l'océan Pacifique, tout ça. Et quand je suis arrivée ici et que j'ai appris avec Laurette Laplante-Agnew encore beaucoup d'histoires, il y a quand même quelqu'un, là, une autrice, on dit auteur avec un E ou autrice, une autrice fantastique qui a sorti le livre « French Canadian Furs and Indigenous Women ». Et elle s'appelle Jane Barman de l'Université de Vancouver. Et elle m'a appris énormément de choses. Et quand on a fêté ici un anniversaire du Fort Victoria, elle est venue parler à une conférence au Royal BC Museum avec les Friends du musée. Alors, elle disait que les Canadiens français faisait partie intégrale de la Colombie-Britannique depuis plus de deux siècles. Et la présence dans le nord-ouest du Pacifique a fait que la Grande-Bretagne et non les États-Unis ont acquis le futur de la Colombie-Britannique. Et ça, c'était très, très important. Et comme Jean Barman nous a dit qu'elle écrivait sur l'histoire, mais qu'elle n'avait pas assez apporté d'attention à tous ces Canadiens français qui étaient venus ici. Alors, elle a fait une recherche et elle a vu toutes ces expéditions là, par Mackenzie, Fraser, Thompson, ces gens en charge qui faisaient ces expéditions et qui amenaient des quarantaines, des centaines de Canadiens français pour travailler fort et réussir le projet. Et elle dit que si ça n'avait pas été des Canadiens français qui seraient venus en masse, comme on dit nous autres au Québec, que le projet n'aurait peut-être pas réussi. Et là, qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que la frontière canadienne serait arrêtée aux Rocheuses. Elle n'aurait pas traversé les Rocheuses. Et là, j'ai trouvé une phrase qui était fantastique aussi. C'est qu'il y avait un professeur à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal dont le nom était très très connu, Joseph Dansereau. Et j'ai toujours noté après une phrase qu'il avait dit. Il avait dit « Notre marche d'outre-rocheuse, la seule qui nous manquait, est maintenant une réalité. » Et là, c'était bien à cause des Canadiens français. Alors voilà tout cette histoire-là qu'on peut se raconter. Et surtout, tous les nouveaux arrivants qui ne passent plus par le Québec avant d'arriver en Colombie-Britannique, là,
oui.
Il faut qu'on leur raconte ça, là. Qu'on est au Canada, ici, là, évidemment, ils ont tiré une frontière, 49e, là, et ça a été un petit peu injuste, là. Parce que normalement, s'ils avaient suivi la courbe géographique, on aurait et l'Oregon et le Washington dans le Canada. Mais ils ont tiré la ligne 49, pareil comme elle était, à l'autre côté des Rocheuses. Alors ça, je trouve que c'était une petite injustice, surtout que la décision a été prise à quelque part sur un autre continent qui connaissait même pas la géographie du Canada. Alors ça, c'est un petit point croche. je trouve, dans notre histoire. Mais la grande réalisation, c'est que on vit actuellement en Colombie-Britannique et puis on peut se rappeler tous ces gens qui ont travaillé si fort. Et puis, ben, voilà pourquoi qu'il y aura un dévoilement d'une stèle au style ancien. Évidemment, si c'est un événement qui vous plaît, vous pourrez peut-être être les derniers sur la liste, mais Marie-Hélène Bourret est en train de travailler. Elle a fini, je pense, son petit travail d'une belle visite en français au vieux cimetière. Alors, il faudra pour vous autres de vous accrocher après Marie-Hélène qui va vous expliquer la suite.
Parce que pour l'instant, de ce que j'ai lu dans votre communiqué, il y a 20 places hein, pour cet événement du 6 septembre.
Oui, parce que la façon dont ils font les marches actuellement au vieux cimetière, la société a décidé de faire des groupes de 20. Maintenant, eux autres, quand ils en font un groupe de 20 les dimanches après-midi pour expliquer l'histoire, hein, parce que c'est quelque chose qui continue, hein, ça continue tout le temps. Ben là, ils ont un autre animateur qui fait un autre. Si ça dépasse 20, ils font un autre. Mais on pouvait pas faire ça, nous. On s'est limité à 20 inscrits. Et puis, ben, ça va. Marie-Hélène, elle va pouvoir continuer la suite des marches au cimetière en français, probablement.
Et comment va se dérouler cette journée du 6 septembre?
Alors, le 6 septembre, oui, les gens arrivent dans l'après-midi vers 2h30. Ensuite, il y aura une marche. On fait comme des stations, des petites stations pour raconter un petit peu d'histoire, puis arriver à la stèle pour la dévoiler. Et puis, on va s'applaudir toute la gang pour le travail qui a été fait par le passé et du fait qu'on est dans une place où on peut faire la francophonie ici. Et puis, Marie-Hélène est présente aussi avec une partie aussi de découvrir d'autres lieux sur le cimetière, qui ont des liens avec la francophonie, des personnages qui ont joué un rôle important aussi. Ouais.
D'ailleurs, on va clôturer cette entrevue avec la voix de Marie-Hélène Bourret, qui chante Léon Morel.
Mais oui, elle lui a donné une chanson spéciale. Oui.
On avait déjà écouté une chanson de la même série pour Sœur Henri-Gustave Joly de Lopinière.
Oui.
On va écouter maintenant ensemble cette chanson pour Henri-Gustave Joly de Lopinière.
C'est ça. Alors, donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire, vérifiez à ahfvic@yahoo.ca pour voir s'il reste des places. La présidente Claire Carlin va leur donner une nouvelle par écrit.
Merci, Gisèle Sanson, gardienne des archives pour l'Association historique francophone de Victoria.
Merci, Marina.
Bonne journée.
Au revoir.